Bonjour, ici Chantal Hébert pour Je vous emmène sur Globule Radio 90.5 FM. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de lecture du roman de Paolo Cognetti, Les Huit Montagnes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie du chapitre 9. Dans la première partie du chapitre 9, on avait appris que Piero passait de longs moments dans sa maison, la Barma. Bruno avait fini de restaurer l'alpage. Un été, Piero amène une petite amie, Lara, qui avait grandi à la montagne, et tombera elle aussi sous le charme de ce coin de montagne. Piero ne réussissant pas à s'engager vis-à-vis d'elle, elle va aussi tomber sous le charme de Bruno. Chapitre 9, la suite. Le premier voyage au Népal fut un voyage dans le temps. À une journée de voiture de Katmandou et moins de 200 km de sa foule, commençait une vallée étroite, escarpée, boisée, avec un fleuve qu'on ne voyait pas mais qui grondait tout en bas. Les villages construits 1000 mètres plus en hauteur, là où les pentes s'adoucissaient au soleil. Des chemins muletiers les reliaient les uns aux autres, faits de montagnes russes et de frêles ponts de cordes jetés au-dessus des torrents qui coupaient les flancs de la vallée comme autant de lames. Autour des villages, toute la montagne était terrassée de rizières. De profil, on aurait dit une volée d'escaliers aux marches arrondies, bordées de murets à sec, éclatées en milliers de propriétés. Octobre était la saison de la moisson, et pendant mon ascension, j'observais les paysans s'affairer. Les femmes fauchaient, agenouillées dans les champs. Les hommes battaient les panicules dans les cours pour séparer les grains de la paille. Le riz séchait sur des toiles où d'autres femmes plus âgées que les premières le passaient minutieusement au tamis. Des enfants, il y en avait partout. J'en vis deux labourer un champ comme si c'était un jeu. En accablant de cris et de coups de baguette, deux bœufs efflanqués, et je repensais au bâton jaune de Bruno la première fois que nous nous étions rencontrés. Lui aussi aurait bien aimé le Népal. Là-bas, il y avait encore les charrues en bois, les pierres de fleuve pour affûter les faux, et les hottes tressées sur le dos des porteurs. Même si je voyais des baskets aux pieds des paysans et entendais le bruit des télévisions et des radios sortir de leur bicoque, j'avais l'impression d'avoir retrouvé vivante la civilisation de montagnards qui, chez nous, s'était éteinte. Je ne vis pas l'ombre d'une maison en ruine le long du sentier. Je remontais la vallée avec quatre alpinistes italiens en partance pour l'Annapurna. J'allais partager pendant quelques semaines une tente avec eux et ma caméra. C'était une mission bien payée et j'y avais tout de suite vu une aubaine. J'étais curieux de tourner un documentaire sur l'alpinisme, de voir ce qui arriverait à un groupe d'hommes dans des conditions extrêmes. Mais ce que je découvrais au fur et à mesure que nous nous approchions du camp de base me fascinait encore plus. J'avais déjà décidé que je resterais un peu après l'expédition et partirais de mon côté faire un tour à basse altitude. Le deuxième jour de marche, au fond de la vallée, apparurent les sommets de l'Himalaya. Je vis alors ce qu'avaient été les montagnes à l'aube du monde. Montagnes acérées, coupantes, comme si la création venait à peine de les sculpter et que le temps ne les avait pas encore émoussées. Leur neige illuminait la vallée du haut de leurs 6 ou 7 000 mètres d'altitude. Les cascades tombaient des surplombs et creusaient les parois de roches, arrachaient aux pentes des coulées de terre rougeâtre qui s'en allait bouillonner dans le fleuve. Plus haut, détachés de ce tumulte, les glaciers montaient la garde. « C'est là-haut que l'eau naît », m'avait dit l'homme aux moustaches blanches. Au Népal aussi, ils devaient le savoir, puisqu'ils avaient baptisé leur montagne du nom de la déesse de la récolte et de la fertilité. Sur le sentier, il y avait de l'eau partout où on posait les yeux. L'eau des torrents, des fontaines, des canaux, l'eau des lavoirs où les femmes faisaient la lessive, l'eau que j'aurais aimé avoir au printemps, inondant les rizières et transformant la vallée en une myriade de miroirs. J'ignore si les alpinistes avec qui je marchais remarquaient ces choses. Ils étaient impatients de laisser les villages derrière eux et de planter piolets et crampons dans le glacier qui resplendissait là-haut. Moi, pas. Je marchais avec les porteurs pour pouvoir leur demander ce que je ne comprenais pas. Quels légumes on faisait pousser dans les potagers? Quel bois on brûlait pour se chauffer? À qui étaient dédiés les petits temples que nous croisions sur le chemin? Dans les forêts, il n'y avait pas de sapins ni de mélèzes, mais de curieux arbres tordus que je n'aurais pas reconnus si quelqu'un ne m'avait pas dit que c'était des rhododendrons. Des rhododendrons? La plante préférée de ma mère, parce qu'elle ne fleurissait que quelques jours au début de l'été, teintant la montagne de rose, de lilas, de violet, donnait au Népal des arbres de 5 à 6 mètres de haut, dont l'écorce noire tombait en écailles, et les feuilles étaient aussi huileuses que celles du laurier. Plus loin, au sortir de la forêt, ce n'étaient pas des saules ou des genévriers que je vis apparaître, mais une canaie de bambous. Des bambous, pensais-je? Des bambous à 3000 mètres! Des gamins passaient avec des bouquets de cannes qui ondoyaient sur leurs épaules. Dans les villages, ils s'en servaient pour construire les toits en les coupant dans le sens de la longueur et en superposant les deux moitiés alternées, une concave et une convexe, pour permettre à l'eau de s'écouler à la saison des moussons. Les murs étaient en pierre et recouverts de boue. De leur maison, je savais déjà tout. Dans chaque petit temple que nous croisions, les porteurs déposaient un caillou ou une pousse récupérée dans les bois, et ils me conseillèrent de faire de même. Nous entrions en terre consacrée, et de là jusqu'au sommet, il était interdit de tuer et de manger des animaux. Je ne vis plus de poules autour des maisons, ni de chèvres qui paissaient. Il y avait d'autres bêtes sauvages qui broutaient à flanc de montagne, leurs poils si longs qu'ils touchaient terre, et les porteurs me dirent que c'était des moutons bleus de l'Himalaya. Une montagne avec des moutons bleus, des singes qui ressemblaient à des babouins et que j'apercevais entre les cannes de bambou, et contre le ciel, lentes, les silhouettes lugubres des vautours. Il n'empêche, je me sentais à la maison. Ici aussi, me dis-je, là où le bois se termine et où il ne reste plus que prés et pierrailles, je suis à la maison. C'est l'altitude à laquelle j'appartiens, celle qui fait que je me sens bien. Je pensais à ça quand je foulais la première neige. Je revins à Grana un an plus tard, avec une guirlande de drapeaux de prière que je suspendis entre deux mélèzes et que je pouvais voir de ma fenêtre. Ils étaient bleus, blancs, rouges, verts et jaunes. Le bleu pour les terres, le blanc pour l'air, le rouge pour le feu, le vert pour l'eau, le jaune pour la terre, et contrastait avec l'ombre du bois. Je les observais souvent l'après-midi, pendant qu'ils se liaient d'amitié avec le vent des Alpes et dansaient entre les branches des arbres. Le souvenir que je gardais du Népal était pareil à ces bouts de tissu. Vif, chaleureux, et mes vieilles montagnes me parurent cette fois-là plus désolée que jamais. Je partais marcher et ne voyais rien d'autre que de vieilles cahutes et des ruines. Il y avait pourtant du nouveau à Grana. Bruno et Lara étaient ensemble depuis un moment et ils n'eurent pas à me faire de dessin. Lui me sembla plus sérieux qu'avant, comme certains hommes le deviennent parfois quand une femme entre dans leur vie. Elle, par contre, resplendissait de bonheur. Débarrassée qu'elle était de la poussière de la ville, et de cette résignation que je lui avais connue et dont je ne voyais plus nulle trace. Elle avait un rire sonore et la peau rougie par la vie au grand air. Bruno l'adorait. Là encore, je découvrais une version de mon ami que je ne connaissais pas. À table, le premier soir, pendant que je racontais mon voyage, il n'arrêtait pas de la toucher, de la caresser, de profiter de n'importe quel prétexte pour poser une main sur sa jambe ou son épaule. Et même lorsqu'il me parlait, il restait constamment en contact physique avec elle. Lara paraissait moins anxieuse, plus sûre d'elle en sa présence. Il lui suffisait d'un geste ou d'un regard pour la rassurer. Et c'était tout un « T'es là ? Oui, je suis là. Vraiment ? Puisque je te le dis. » Les amoureux, pensais-je. Heureusement qu'il y en a dans ce monde. Mais quand tu as le malheur d'être dans la même pièce qu'eux, ils ont le don de te faire sentir de trop. L'hiver dernier, il n'avait pas beaucoup neigé et Bruno décida de monter à l'alpage, ou en montagne, comme il disait, dès le premier samedi de juin. Ce jour-là, je lui prêtais moi aussi main forte. Il avait acheté 28 vaches laitières, toutes déjà pleines, qu'une bétaillère avait livrées sur la place de Grana. Le voyage les avait rendues nerveuses et elles dégringolèrent des glissières en meuglant et en s'envoyant des coups de corne. Elle serait partie de tous les côtés si Bruno, sa mère, Lara et moi, postés aux quatre coins de la place, ne les avions pas contenus et tranquillisés. Le camion repartit. Avec deux chiens noirs de la dynastie des bergers de Grana, nous commençâmes à remonter le chemin muletier. Bruno en tête qui appelait. « Oh ! Oh ! Oh ! Hey ! Hey ! Hey ! » Sa mère et Lara le long du cortège et moi tout derrière, à ne rien faire et à profiter du spectacle. Les chiens connaissaient leur travail par cœur et couraient après les vaches qui s'attardaient, en leur aboyant dessus et en les mordant au mollet jusqu'à ce qu'elles rentrent dans le rang. Les jappements des chiens, les beuglements de protestation des vaches et le tintamarre des sonnailles couvraient tous les autres bruits, et j'avais l'impression d'assister à un défilé de carnaval ou à une résurrection. Le troupeau remontait la vallée, passant devant les baïtés effondrées, les murets éventrés par les ronces, les souches grises des mélèzes abattues, comme du sang recommence à circuler dans les veines d'un corps et le ramène à la vie. Je me demandais si les renards et les chevreuils, qui suivaient certainement nos faits et gestes dans les bois, réussissaient à leur manière à partager ce sentiment de fête que pour ma part je ressentais. Dans la montée, Lara s'approcha de moi. Nous n'avions pas encore eu l'occasion de parler seuls, elle et moi, mais je crois que nous étions tous les deux d'avis que la chose s'imposait. Je me demande bien pourquoi elle choisit justement ce moment-là, quand chaque mot devait être crié dans la poussière qui nous cernait. Elle me sourit et dit « Qui aurait imaginé ça il y a un an, hein ?»« Il y a un an, où étions-nous » pensais-je. « Ah oui, c'est vrai, peut-être dans un bar de Turin. » ou dans son lit. Tu es heureuse ? Lui demandai-je. Très, dit-elle, souriant de nouveau. Dans ce cas, je ne peux que l'être moi aussi, dis-je, et je savais que nous ne reviendrons plus sur la question. Dans les prés, ce jour-là, la dent de lion fleurissait. Tous les pétales s'ouvraient en même temps au petit matin, et une couche de jaune vif passait alors sur la montagne, comme si le soleil lui-même l'inondait. Les vaches étaient friandes de ces fleurs sucrées. Quand nous arrivâmes à l'alpage, elles se jetèrent sur le pâturage comme à un banquet. En automne, Bruno l'avait débarrassé de tous les arbustes qui l'infestaient, et il ressemblait de nouveau à un beau jardin. « Tu ne mets pas la clôture ?» demanda sa mère. « La clôture, ce sera pour demain, dit-il. Aujourd'hui, je les laisse faire la fête. » « Elles vont gâcher l'herbe, » protesta-t-elle. « Mais non, » dit Bruno, « elles vont rien gâcher du tout. T'en fais pas. » Sa mère secoua la tête. Depuis que je la connaissais, je ne l'avais jamais entendue parler autant que ce jour-là. Elle était montée en boitant à cause d'une jambe qu'elle ne pouvait plus plier et qu'elle traînait un peu, mais d'un bon pas. Je n'arrivais pas à voir à quel point elle était maigre. Elle disparaissait sous ses amples habits et elle regardait tout, contrôlait tout, conseillait et critiquait pour que chaque chose soit faite comme il fallait. Les trois baïtés semblaient avoir retrouvé un autre âge de leur vie. Une maison, une étable et une cave avec les murs et le toit en pierre, reconstruites dans les règles de l'art, alors même qu'elles renfermaient les locaux d'une entreprise, tout ce qu'il y a de plus moderne. Bruno entra dans la cave et en ressortit avec une bouteille de blanc. Et je me rappelais le même geste qu'avait eu son oncle tant d'années en arrière. C'était lui le maître des lieux à présent. Nous n'avions rien pour nous asseoir. Lara dit que nous construirions une grande table pour manger dehors. Mais en attendant, nous trinquâmes debout, devant le portail de l'étable, observant les vaches qui prenaient leur marque dans la montagne. C'était Chantal Hébert sur Globule Radio 90.5 FM. Cet enregistrement est réalisé à l'attention de tous nos anciens en EHPAD ou à l'hôpital et tous les soignants qui les accompagnent. Et cet enregistrement a été possible grâce à l'agence Jean de Cham à Chamonix.